Merci Seigneur. Nous te louons pour ta parole précieuse. Nous te remercions parce que tu nous apparais ces jours. Nous prions encore une fois pour chacun de nous, pour qu'on puisse garder ta parole dans notre cœur. Que ta parole trouve un bon terrain dans notre cœur et porte du fruit. Parle-nous aussi ce matin, afin que nous puissions te voir plus, te reconnaître plus et t'aimer davantage. Et qu'on soit sanctifié de part en part pour te servir. Merci Seigneur, merveilleux. C'est une grande miséricorde d'être ici, une grande grâce d'être ici. Ce n'est pas évident. Si le Seigneur ne nous conduit pas et ne nous garde pas, chaque jour, on serait sûrement ailleurs. Mais je remercie le Seigneur que ces temps, il nous ouvre vraiment les yeux pour voir des choses qui sont cachées en Dieu. Ça, c'est un privilège. Et particulièrement de voir que le Seigneur vient bientôt. Est-ce que ce n'est pas une chose merveilleuse? Souvent, les dernières semaines, je me suis posé la question, quand j'ai regardé le Seigneur, et quand j'ai pensé à quoi les gens s'occupent, j'ai pensé, combien y a-t-il de personnes qui voient la proximité du Seigneur, qui sont vraiment réveillées et qui se dirigent vers la venue du roi? Le Seigneur revient en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il revient dans la gloire. Personne d'entre nous n'a vu une telle apparition. Et c'est ainsi qu'il revient bientôt sur cette terre. Est-ce que tu n'aimerais pas savoir cela à l'avance? C'est si merveilleux. Déjà aujourd'hui, de voir plus que le Seigneur revient bientôt. Afin qu'on puisse vraiment se préparer pour son retour. J'aimerais lire dans 2 Pierre 3, parce que cet endroit montre très bien que quand le Seigneur revient, il veut aussi nous trouver dans une certaine condition. Le Seigneur revient dans la gloire, dans la puissance, dans la force sur cette terre. Et comment est-ce qu'il veut nous trouver? Je vous lis 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qui sait quand le voleur vient? En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis il dit au verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Quel jour! Personne d'entre nous n'a vécu un tel jour, mais il vient très bientôt. C'est pourquoi Pierre dit, comme tout devra être consumé, tout ce qu'on a, ne nous y attachons pas. Cela ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que bientôt, tout sera consumé. Tout ce que tu as, ce sera brûlé et ça fondra. Ça deviendra rien. Mais il dit, quel genre d'homme vous devez être? Pour Dieu, il s'agit de ce que nous sommes. comment est notre cœur? Comment est notre être? Ça, c'est très important pour Dieu. Ce ne sont pas les œuvres qui sont accentuées ici, mais quel genre d'homme devez-vous être? Comment sommes-nous? Quand tu te poses la question, comment suis-je aujourd'hui? Puis il dit, comment on devrait être? Dans une conduite sainte et dans la piété. Comment est notre marche? À quoi elle ressemble? Ça doit être une marche sainte. C'est un tel désir que Dieu devienne visible en nous. Il aimerait que par notre vie, les gens puissent le reconnaître. Est-ce que c'est pas fort? Il aimerait pas juste qu'on parle beaucoup de lui, qu'on sache beaucoup à son sujet, mais il aimerait vraiment que la manière dont nous vivons, comment nous parlons, que ça rende Dieu visible, que par là, on puisse voir Dieu. Que lorsque tu parles aux gens, que tu es avec lui, qu'il réalise, cet homme connaît Dieu. C'est une autre expression. C'est une vie différente qu'on remarque cet homme. Avez-vous aussi un tel désir, une telle attente? Père, j'aimerais qu'on voie ton fils dans ma vie, qu'il devienne visible, pas nous-mêmes. Seigneur, comme nous sommes, peu importe si ça paraît bien à nos yeux ou pas, mais il faut que ça exprime Dieu. Je pensais, oh, je suis un bonhomme, mon humanité est bonne, je m'entends bien avec beaucoup de gens, jusqu'à ce que le Seigneur me montre, ton humanité est complètement déchue, elle ne sert à rien. Repends-toi et laisse-toi renouveler. Le Seigneur aimerait et il doit nous donner plus de lumière afin qu'on ait un tel désir d'être transformé en son image. Si je ne reconnais pas que mon être est corrompu, où est-ce que j'aurai ce désir? D'où est-ce que j'aurai ce désir d'être transformé? Alors, je resterai tel que je suis. Je me dirais, je suis comme ça. Non. Dieu aimerait devenir visible dans notre vie. Quel appel élevé, merveilleux. Et pour ça, il nous faut du temps et de la collaboration. Seigneur. Il faut vraiment bien employer le temps que nous avons. Il n'y a plus tellement de temps. Seigneur, tu veux vraiment nous transformer. Seigneur Jésus, dans Exode 29, il y a une description de l'expérience qu'on peut faire avec Christ et dont on a besoin pour que le Seigneur puisse vraiment nous transformer. C'est un chapitre merveilleux. Ces jours, je l'ai lu et relu, et j'y ai repensé. Pour saisir plus du Seigneur, plus connaître le Seigneur. Et Dieu a vraiment un tel but avec nous. Dans Exode 29, verset 1, il est dit, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » C'est un privilège si grand. C'est vraiment un privilège que Dieu aujourd'hui nous sanctifie. Il aimerait nous séparer pour lui. Il aimerait qu'on soit plus proche de lui. Est-ce que vous êtes assez proche du Seigneur? Avez-vous pas le désir, Seigneur, j'aimerais être plus proche de toi? Mais ce matin, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais être encore plus éloigné des choses de ce monde et plus proche de toi. Où est-ce que tu veux être? Vers toutes ces choses qui ne sont rien, qui vont disparaître? Ou bien avoir un cœur proche du Seigneur, plus, toujours plus proche, toujours plus séparé? Ça veut dire, tu te sépares de ces choses de ce monde et tu t'approches de plus en plus du Dieu vivant. C'est pas une sanctification bizarre, mais c'est merveilleux. Ça nous amène dans sa présence. Ça nous amène dans la communion avec lui. C'est là que nous voulons vivre. Amen. Tu les sanctifieras afin qu'ils me servent comme sacrificateurs. Quel travail avez-vous? Quelle place de travail? Un sacrificateur. Je sais qu'il va me donner cette réponse si je demande à Toby. C'est si merveilleux. C'est l'appel élevé qu'on a reçu, c'est un appel si grand, afin de me servir comme sacrificateur, Seigneur. Dieu aimerait vraiment qu'on apprécie cela. Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ton travail? Là, à Feingen? Ou bien ton appel à servir en tant que sacrificateur, le Dieu vivant. C'est si merveilleux. Peu importe ce que sur la terre nous vivons, comparé avec cet appel d'être un sacrificateur du Dieu vivant, il n'y a pas de comparaison. Afin qu'il me serve comme sacrificateur. Ça doit nous donner un appétit pour tout ce qui est écrit plus loin, afin de voir comment gagner Christ, comment expérimenter Christ, afin que ce que Dieu veut vraiment avec nous devienne la réalité. C'est bien d'avoir un désir de le servir comme sacrificateur, mais Dieu et nous aussi, on aimerait que ça devienne une réalité dans notre vie quotidienne. J'aimerais pas de lundi à dimanche servir le monde ou d'autres choses et puis le dimanche je me souviens de mon service de sacrificateur. C'est pas comme ça. Tout le temps nous sommes appelés à le servir comme sacrificateur. Quelle est ta conscience au milieu de ta semaine, Marc? Est-ce que tu penses je suis ici pour servir le Dieu vivant en tant que sacrificateur? Adam est là. Merveilleux. C'est pour cela qu'on est là, de lundi à dimanche, et même jusque dans l'éternité, pour le servir en tant que sacrificateur. On a un appel vraiment élevé. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Pour nous consacrer à lui en tant que sacrificateur. Ce n'est pas qu'un homme dit « Ah, j'aimerais servir Dieu. » Alors Dieu se réjouit tellement qu'il dit ben, « Fais quelque chose pour moi. » Peu importe comment, peu importe ce que c'est. Fais quelque chose. Deviens actif. Non. Avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Ici, il y a tout un chapitre qui nous montre ce que Dieu veut œuvrer en nous afin qu'on puisse le servir comme sacrificateur. Il faut un changement en nous. Il faut une expérience de Christ qui va plus loin que notre salut. On a déjà entendu que pour être sauvé, à ce moment-là, on n'a besoin que de la foi. On a besoin de l'offrande pour de culpabilité. J'aimerais mentionner ça rapidement. Il y a deux offrandes pour le péché, deux. Et ces deux offrandes, c'est une offrande dans Lévitique 5, 6, je crois. Cette offrande traite toutes les fêtes pécheurs que l'homme peut faire. C'est merveilleux. C'est glorieux. Je vous lis Jean 1, 7. Ou bien? Non. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, même dans la lumière, nous avons de la communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils nous lave de tout péché. De quelques péchés? Du plus petit péché jusqu'au moyen. Ou certains disent seulement les péchés dont tu n'es pas conscient. Et si tu es conscient de quelque chose, tu n'as pas de pardon. Est-ce que c'est ça? Non. La parole dit, il nous lave de tout péché. C'est une offrande si merveilleuse. Elle peut enlever le péché du monde entier. C'est ce que dit le chapitre 2, verset 2. Il est lui-même un sacrifice expiatoire, une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, qui sont déjà nombreux, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Quelle offrande est le Seigneur? Il a vraiment enlevé le péché du monde entier. Alléluia. Le jugement du monde entier était sur lui et il a payé pour cela. C'est une offrande expiatoire merveilleuse. On a un Seigneur merveilleux. Il faut qu'il nous ouvre encore plus les yeux pour qu'on voit comme il est grand, merveilleux et glorieux. Il a enlevé le péché du monde entier. Et pour le on a besoin de faire ce pas pour être sauvé. Alors, lorsque nous sommes sauvés, est-ce que ça suffit? Le péché est pardonné, maintenant on peut servir. On est lavé, pardonné, maintenant on peut servir Dieu. Est-ce que ça suffit? Dans Exode 29, il dit, la première chose dont on a besoin, c'est un jeune taureau. Prends un jeune taureau. Et quel est ce taureau? Au verset 14, il dit, tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. C'est un sacrifice pour le péché, pour le péché. Il y a une deuxième offrande pour le péché et ça n'a pas à voir avec les actes, avec ce que nous avons fait, mais c'est pour le péché et cela a à faire avec la nature du péché qui est en nous. Amen. Est-ce que vous avez remarqué que même quand on fait rien de mauvais, dans notre chair, il y a le péché? Paul a même dit, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, rien de bon n'habite. Rien de bon. Le péché, cette nature du diable, habite dans notre chair. C'est pourquoi même le Seigneur dit dans Jean 8, vous ne savez pas de qui vous êtes de votre père, le diable. C'est une phrase très forte. Qu'est-ce que ça veut dire? que cette chair ici, c'est parent du péché, du diable. Le péché y habite. Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne remarquez pas souvent que cette chair est vraiment un problème? Et maintenant, la parole dit qu'on doit le servir en tant que sacrificateur. Et la première offrande, le premier aspect de Christ mentionné ici, dont nous avons besoin, la plus grande offrande qui est décrite ici, c'est l'offrande pour le péché. Cette nature du péché dans notre chair, elle doit être traitée. C'est très, très important. Si on aimerait se donner à Dieu et le servir, nous avons tous besoin d'un taureau. Nous avons tous besoin d'un tel Christ qui a pleinement vaincu le péché. Est-ce que tu n'en as pas besoin? Est-ce que seul tu peux vaincre le péché? Manu, tu es pourtant un homme fort. Est-ce que tu peux vaincre le péché tout seul? Non. Personne ne peut faire cela. Je lis Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair est vraiment un problème. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, il est venu avec la chair et le sang comme nous. C'est afin de traiter cette nature du péché en nous. Il a condamné le péché dans la chair. Le Seigneur, il n'a pas péché une seule fois. Il avait la chair et le sang. La parole dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, toutefois sans péché. Pas une seule fois, il a péché. Quelle victoire! Bien qu'il avait la chair et le sang, et il a dit dans Jean 8, qui me convaincra d'un péché? Les hommes ne pouvaient rien voir en lui, mais même le diable qui l'a tenté, le Seigneur a dit dans Jean 14, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Alléluia. Quelle offrande pour le péché nous avons. Le Seigneur, en tant qu'homme, a pleinement vaincu la mort, le péché. Ça n'est jamais venu en lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il a vraiment vaincu tout cela. C'est un taureau, jeune taureau, si merveilleux. Il est plus fort que toute tentation, plus fort que toutes les convoitises de ce monde. Le diable lui a proposé toute la gloire de ce monde. On n'aurait pas pu vaincre cela. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi. Et le Seigneur lui a dit, retire-toi de moi. Quelle offrande pour le péché merveilleuse. Le Seigneur a pleinement vaincu le péché. Il a pleinement vaincu le monde. Et nous avons besoin d'un tel Christ. Ces jours, j'ai souvent pensé à ces trois mots. Prends un jeune taureau. On a tellement besoin du Seigneur. On a tellement besoin de cette offrande pour le péché. Le Seigneur nous libère vraiment. Seigneur, nous te louons. Tu es celui qui nous libère. Romains 8, verset 2, dit que la loi de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est si merveilleux. Alors, l'offrande des expiations, ça enlève nos fautes, nos actes pécheurs. Mais on n'est toujours pas qualifié pour servir Dieu. Mais on a une offrande pour le péché qui nous libère de cette domination du péché. C'est une telle victoire qu'on a dans le Seigneur aujourd'hui. Dans Romains 6, 22. Mais maintenant, on peut le lire ensemble, ceux qui le veulent, pour proclamer sa victoire. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Louez le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Maintenant, on doit vraiment proclamer ça avec hardiesse dans la foi. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Seigneur, le Seigneur nous a vraiment libérés. Nous a libérés pour le servir et pour vivre pour lui. Et quand la chair ou les convoitises veulent venir, ce n'est pas seulement quelque chose en nous, mais c'est aussi le diable qui veut nous empêcher de devenir saints pour servir Dieu. Mais on ne doit pas seulement supplier de devenir libre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on est libéré. Mais quand le péché vient, le monde vient, si on dit « Seigneur, pardonne, rends-moi libre », est-ce que tu es libre? Non. Ce n'est pas comme ça. Dans Jacques, il y a une parole merveilleuse. Jacques 4. Jacques 4, verset 7. On doit être... Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. On doit être soumis à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est si merveilleux. Dans ce monde, Satan aimerait tout employer pour nous lier afin qu'on ne serve pas Dieu. Et on se demande, pourquoi est-ce que je suis si faible, que je suis affaibli, que je suis condamné? Où est le problème? Il y en a un qui est le problème, c'est le diable. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La parole nous dit, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il fuira loin de vous. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est si merveilleux. Quel Christ nous avons! Le Seigneur l'a pleinement anéanti. La parole dit qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a ôté les armes de toutes les puissances. Il est la tête de toutes les puissances. Et c'est grâce à un tel Christ qu'on peut vraiment résister au diable. Et la parole dit, il fuira loin de vous. Et lorsque tu es libéré du péché, de la mort, et de cet ennemi, alors tu as vraiment la liberté de servir le Seigneur. C'est si merveilleux. Ces jours, j'ai beaucoup apprécié. On a vraiment une offrande pour le péché qui est forte, puissante. Que le Seigneur nous encourage tous à regarder à lui et à le prendre. Comme il est dit ici, prends un jeune taureau. Donc, quand tu penses que tu n'arrives pas, alors pense à ce jeune taureau. Dans cette consécration, c'est quotidien. C'est les trois derniers versets. verset 35. Il dit, tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation. Et verset 37, il dit, pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Il a dit, tous les jours, tu prendras un jeune taureau pour faire l'expiation. On a besoin de cette libération, de cette consécration tous les jours. Tout ce processus de consécration, ce n'est pas seulement une fois au début, mais c'est tous les jours. Pendant 7 jours, tant que nous vivons dans cette chair, nous avons besoin de ce Christ merveilleux, de ce jeune taureau, afin de rester saint et de servir Dieu en tant que sacrificateur. Nous avons un Christ si merveilleux. Que le Seigneur nous fortifie tous, afin que tous les jours, on puisse renouveler cette consécration et prendre le Seigneur et servir notre Dieu et Père. C'est pour ça qu'il nous a libérés. Bien sûr, il y a encore 2 autres offrandes, mais on n'a pas le temps maintenant. Peut-être que quelqu'un d'autre partagera à ce sujet. J'espère que dans cette expérience, nous pouvons vivre dans cette expérience pour servir le Seigneur. Et ce qui a été très précieux pour moi, c'est que cette offrande d'expiation et pour le péché, nous devons les prendre ensemble. Quand je suis tombée, ça suffit pas seulement de reconnaître mon péché. Et demain, je refais la même chose. Comment alors est-ce que je peux servir le Seigneur? Parce que je suis pas sanctifiée. Mais quand je vois quelque chose dans ma vie qui m'a amené à pécher, alors je peux dire au Seigneur directement, Seigneur, tu es aussi mon offrande pour le péché, pour éloigner cette chose de ma vie afin que je ne le refasse plus jamais. Tu me rends libre, Seigneur. Le Seigneur nous a tous libérés. Et si on le prend comme ça, comme offrande d'expiation et pour le péché, alors on est vraiment sanctifié pour le servir en tant que sacrificateur. On est libéré.